Radio Kaléidoscope 97 FM présente Au ras des rues, l'émission qui prend de la hauteur.
Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de Radio Kaléidoscope, c'est l'émission Au ras des rues pour cette nouvelle émission. Avec moi dans le studio Morgane, bonjour Morgane.
Bonjour.
Marie-France, bonjour Marie-France. Antoine, bonjour Antoine.
Bonjour.
Et à la technique, c'est toujours le pâteau qui a récupéré sa barbe d'ailleurs depuis. Et nous avons la chance d'accueillir dans nos studios deux invités. Alors tout d'abord, bonjour Mohamed Bougatem.
Bonjour.
Vous êtes un ancien travailleur social à la DCFA, l'association dauphinoise de coopération franco-algérienne. Vous avez travaillé de 1970 à 1986.
Absolument.
Et vous êtes habitant de la Villeneuve par ailleurs. Et nous accueillons aussi Pierre Frappa, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes ancien prof d'économie, ancien journaliste, et vous écrivez, vous continuez d'écrire des livres, dont votre dernier ouvrage qui est sur Géoboulou, Métallo, Joboulou, Métallo de...
Du doudou.
Voilà. Pour la rime.
Oui, un titre un peu bizarre, mais bon, peut-être qu'on pourra s'expliquer.
On va y revenir par la suite. Pour l'instant, on commence avec l'Injada. Alors, à l'Injada du crieur, alors juste avant, je rappelle quand même que cette émission sera, vous pourrez réécouter cette émission vendredi de 19h à 20h. Sinon, le podcast sera en ligne sur le site du crieur, www.lecrieur.net, d'ici une quinzaine de jours à peu près. Et vous pouvez toujours commenter cette émission sur Facebook, sur le compte Au ras des rues, RKS 97 FM. J'ai bon, Antoine ?
Oui, c'est ça.
Merci. Alors, on commence avec l'agenda du crieur de la Villeneuve. Alors, cette semaine, pas grand-chose. Juste pour vous rappeler que l'Assemblée Générale de l'Association du crieur de la Villeneuve aura lieu le 20 janvier, donc c'est un mercredi, à 18h30, à la Maison des Habitants des Baladins. C'est au 31 Place des Géants. Donc, si vous voulez participer à l'aventure du journal de la Villeneuve, courez à cette Assemblée Générale. Donc, 18h30, le 20 janvier 2016, à la Maison des Habitants des Baladins. On continue avec Marie-France, vous allez nous parler de l'Arlequin d'Argile.
L'Arlequin d'Argile, oui, c'est une association, si j'ai bien compris, parce que c'est un habitant du quartier de la ville du village olympique qui participe à cette association. Il y a une cinquantaine de participants qui travaillent tout ce qui est terre, modelage, sculpture, céramique, donc un peu des artistes ou des apprentis artistes. Et il me signalait, cet habitant, que cette semaine... Depuis lundi dernier, cette semaine et la semaine prochaine, l'association fait des deux semaines portes ouvertes. Donc, on peut aller se renseigner, visiter l'association qui se trouve à côté de la régie de quartier à la Villeneuve.
C'est l'ancienne école des Charmes, en fait.
Voilà.
17 galeries d'Arlequin.
17 galeries d'Arlequin. OK. Donc, c'est ouvert le mardi et le mercredi le matin. Et le lundi et le jeudi, l'après-midi. Voilà, donc 15 jours de porte ouverte à l'association Arlequin d'Argile.
Merci Marie-France. Alors toi, Antoine, tu voulais nous parler d'une visite de la Villeneuve. La Villeneuve recrute des...
C'est ça, je voulais faire une petite annonce, puisque du lundi 25 au vendredi 29 janvier, la dernière semaine de janvier en fait, il y aura des étudiants de l'école d'architecture de Grenoble qui vont se balader dans le quartier de la Villeneuve. Donc, c'est les premières années, ils vont faire des croquis, faire un petit peu une impression du quartier. Et on recherche des gens pour faire une visite du quartier. Donc, il y aura une première visite un petit peu générale, et puis des lieux un peu précis où on recherche des gens, par exemple, pour faire visiter la piscine et le lac, la place du marché, la zone d'activité des peupliers, les abords de l'école des Trembles. L'école de la Fontaine, des appartements aussi, ceux avec terrasse, ceux qui sont du côté géant, du côté Arlequin, allée de la colline, des locaux associatifs, la maison de retraite, le jardin des poussées, le jardin Terre-Neuve en fait. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour participer et même engager la visite, je Je vous invite à contacter l'association Planning avec le mail asso.planning@grezy.org.
Alors, est-ce qu'il y a vraiment besoin de connaître bien le quartier pour faire ça?
Non, pas forcément bien le connaître, juste connaître l'endroit que vous allez présenter, le lieu précisément. Ça peut être des gens qui ont l'habitude de venir juste à la maison de retraite ou juste dans une association. Et il suffira juste de présenter le lieu, en fait.
D'accord. Et donc, on rappelle le mail.
Donc, asso.planning@grezy.org. Et donc, ce sera la dernière semaine de janvier. Ce sera le mardi 26 janvier, de 14h à 16h, et le mercredi, de 10h à 12h. Voilà.
Eh bien, merci Antoine. Marie-France, vous voulez...
Oui, sur le village olympique, l'Union de quartier organise la traditionnelle galette des rois ce samedi 16 janvier, en fin de matinée, de 10h à midi, donc au local de l'Union de quartier. Un rue... comment elle s'appelle cette rue? L'Union de quartier, en tout cas. Hein,
à côté vous demandez de l'Union de quartier Henri, dans le village olympique.
À côté de la rue Henri Duhamel.
Lionel Théré.
Voilà. Merci Marie-France. Et Morgane, tu voulais nous... continuer de parler de l'actualité des quartiers sud de Grenoble avec le camp de Rome de la Bifurque.
Oui, tout à fait. En fait, c'est parce que la semaine dernière, on avait expliqué un petit peu ce qui s'était passé pendant les vacances de Noël pour le camp qu'on appelait le camp Flaubert. Donc, il y a un bidonville qui s'est installé en face de la Bifurque, et, enfin, entre la Bifurque et la MC2. Et en fait, bon, il y a eu un incendie, ils avaient été évacués, ils ont été pendant un temps logés dans un gymnase, puis dans des chambres d'hôtel, et finalement, contre toute attente des personnes qui étaient là pour les accompagner, voilà, par solidarité, savoir comment ils étaient gérés, comment le problème était géré par les institutions, voilà, contre toute attente, ils ont pu réintégrer le bidonville, bon, faute de propositions autres, mais au moins leur habitat n'a pas été détruit, ce qui était une crainte quand même des personnes qui travaillaient avec eux, les associations, les militants, etc. Voilà, c'était juste pour ce petit point info.
Eh bien, merci Morgane. On va faire une petite pause musicale avec aujourd'hui une sélection spéciale David Bowie, parce qu'on a appris lundi la mort de David Bowie à l'âge de 69 ans, celui qui aura marqué 50 ans de musique rock, donc a fait son dernier tour vers les étoiles. Donc petit hommage dans cette émission, on commence avec le premier succès de David Bowie, c'était en 1969, la chanson s'appelle Space Oddity, elle a été utilisée par la NASA en 1969, donc lors du premier pas de l'homme sur la Lune. La chanson raconte le dialogue entre un astronaute qui s'appelle Major Tom et la station de contrôle sur Terre. Et le problème, c'est que Major Tom doit quitter son vaisseau spatial et il dérive lentement dans l'espace vers sa mort inéluctable. Bon, alors, certains ont vu dans cette chanson en fait le thème de la drogue et Major Tom qui prenait un trip et qui partait un peu là aussi dans les étoiles, mais une autre forme d'étoile. Donc chacun se fait son idée. On écoute tout de suite David Bowie, Space Oddity.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time.
Voilà, c'était Space Oddity de David Bowie. Vous êtes toujours sur Aura des Rues, sur Radio Kaleidoscope, l'émission qui prend de la hauteur. Marie-France, tu nous as parlé tout à l'heure de la galette de Lunon Quartier. Cette fois-ci, tu vas nous parler de la galette des rois de l'association Les Alfreds.
Les Alfreds, donc, c'est l'association culturelle qui anime, qui fait des animations sur le quartier Vigny-Musset, nos chers voisins. Donc, samedi dernier, le 9 janvier, c'était le jour de la galette des rois. Donc, il y a eu une galette offerte par l'association à l'espace partagé Vigny-Musset. Donc c'est un petit enregistrement de Eric Brandon, le président de l'association. Juste après l'événement, il nous en parle et puis il nous donne aussi des projets. Il nous parle aussi des projets de l'association pour cette année. Voilà, on écoute Eric Brandon.
Tire vers le Repair Café, donc ça sera un brico-café.
Pour éviter les...
Pour que, donc, repérage va nous aider pour l'aspect vélo, puisqu'on fait appel à eux tous les ans. Et sur la partie Repair Café, il y a plusieurs membres d'Alfred qui vont s'occuper de monter ça. En tout cas, on va essayer de trouver des bricoleurs.
D'accord.
Parce qu'on n'est pas tous bons bricoleurs. Moi, je ne suis pas très bon bricoleur, par exemple.
D'accord.
Voilà.
Autre chose.
Donc, ça devrait se passer ensuite le 2 avril, normalement.
On aura le temps d'en reparler.
On aura le temps d'en reparler. Sur les vacances de février, un planétarium qui aura lieu donc un des deux mercredis des vacances. Ça reste encore à préciser. On avait fait ça au mois de septembre 2015, ça a très très bien marché. Donc,
le principe,
c'est un planétarium gonflable qui est positionné dans le bâtiment, ici dans la grande salle de l'espace partagé Vigny-Musset. Et donc, on avait fait 6 séances, je pense qu'on en aura du même nombre. Et il y aura aussi des séances pour les tout petits enfants, plus courtes.
Oui.
Puisqu'on avait pris qu'à partir de 7 ans sur les dernières, et il y avait une petite frustration.
C'est pour les tout petits.
Voilà. Et également, donc, Alfred se joindra, en tout cas pour faire un peu de publicité, pour annoncer le carnaval du 26 février. C'est le dernier vendredi des vacances. Ça partira de Vigny-Musset, ça ira sur Village Olympique. Et Alfred tiendra un stand et donnera un coup de main pour les membres d'Alfred qui seront présents en appui de la maison de l'enfance.
Voilà, bah merci pour toutes ces informations.
Merci à toi.
Voilà, c'était donc l'enregistrement des Alfreds. Tu voulais rajouter quelque chose, Marie-France?
Non, c'est bon.
C'est bon. Alors, Morgane, aujourd'hui, tu vas nous parler de la maison du projet. Alors, la maison du projet, qu'est-ce que c'est donc, Morgane?
Alors, la maison du projet, c'est un peu un sujet d'actualité, puisqu'on est sur le lancement de la partie 2 de la rénovation urbaine sur le périmètre, donc Villeneuve, Village Olympique et également Villeneuve-des-Chirolles. Donc voilà, on est censé être sur un projet de grande envergure qui englobe ces trois quartiers de la métropole grenobloise. Et donc dans la manière de faire cette ANRU 2, on doit mettre, enfin la mairie, la métropole, parce que c'est elle qui est garante de ce projet-là, doit mettre en place ce qu'on appelle une maison du projet. Donc ça a été, ça fait partie de la... Non, je ne vais pas dire de bêtises, je ne suis pas sûre. Donc en fait, cette maison du projet, elle a pour but de donner un lieu à la discussion sur la rénovation urbaine, de pouvoir être un lieu d'information, d'échange, d'organisation, de projet pour faire avancer les propositions, etc. Donc, cette maison du projet doit être mise en place. Après, sur les modalités de sa mise en place, il n'y a pas de critères vraiment définis. Donc, voilà, ce que j'avais envie d'apporter aujourd'hui dans cette émission, c'était la discussion qu'on avait pu avoir au sein notamment des ateliers populaires d'urbanisme, mais aussi, par exemple, dans le suivi des ateliers pédagogiques autour de l'architecture et de l'urbanisme qui ont été mis en place dans plusieurs écoles du quartier et structures associatives. Donc de ce rôle que pourrait jouer la maison du projet.
Et de sa location.
Et de sa location. Et de sa localisation. Et de sa gestion aussi, de qui doit la gérer. Donc lors de la semaine de coproduction qui a eu lieu donc, en avril 2015, le QG de cette semaine de co-construction qui avait eu lieu était situé au patio. Et il y avait un lieu avec des ordinateurs à disposition, avec une connexion Internet, même si elle marchait plus ou moins, et des personnes disponibles pour renseigner les personnes sur qu'est-ce que c'était que la rénovation urbaine, quels étaient les sujets, avec des lieux d'affichage pour tous les comptes rendus des ateliers qui avaient lieu au cours de la semaine, et de faire ainsi avancer les informations sans bien sûr penser que tout le monde peut être toujours là à tous les ateliers. Voilà, donc ça c'était un premier test de ce que pourrait être la maison du projet de manière temporaire. Et moi je voulais juste dire que dans les ateliers populaires d'urbanisme, en ce moment ça discute un petit peu de demander, de peut-être proposer des lieux. Il y a plusieurs locaux qui pourraient être disponibles.
Tout à l'heure tu parlais de celui des opticiens.
Alors, il y a les opticiens de la place du marché, il y a eu la discussion sur la piscine Iris. Il y a sûrement d'autres locaux disponibles. Alors, moi, je sais que cette question-là n'est pas une question évidente parce que on réfléchit énormément dans les ateliers populaires d'urbanisme sur un lieu à la Villeneuve. Mais en fait, ce qui est assez gênant, c'est que les quartiers étant quand même assez grands, pris en compte, se pose la question de est-ce qu'il y a un seul lieu Est-ce que ce lieu, eh ben, il est situé à la Villeneuve s'il n'y en a qu'un? Et comment on gère ces lieux? C'est-à-dire, est-ce que c'est la mairie qui doit gérer ces lieux? Est-ce que ce n'est pas problématique vis-à-vis d'habitants qui n'auraient pas envie de venir dans un équipement géré par l'institution? Voilà. Donc, j'avais envie de reposer de vous expliquer ce que c'était que la maison du projet et du débat qu'il y a autour de ça.
D'accord. Merci, voilà. Morgane, pour cet éclairage sur la maison du projet. Il est temps pour nous de faire une nouvelle pause musicale. Donc, on continue avec notre petit hommage à David Bowie, avec la chanson Heroes, sortie en 1977 sur l'album éponyme. La chanson aurait été inspirée par un baiser fait devant le mur de Berlin. Voilà, c'était la chanson Heroes de David Bowie. Vous êtes toujours sur Radio Kaléidoscope. C'est l'émission Aura des rues, l'émission qui prend de la hauteur. Et avec nous en studio, nous avons toujours Mohamed Boukatem, qui est ancien travailleur social à l'Association Dauphinoise de Coopération Franco-Algérienne, et Pierre Frappa, ancien professeur d'économie, ancien journaliste. Pierre Frappa, vous avez écrit un livre récemment, Géoboulou, le métallo du Dubedou. Donc Géoboulou, c'était un ouvrier de chez Nerpic, les usines qu'il y avait quartier Beauvert, et qui était militant CGT, et qui a été conseiller municipal aussi. Alors pourquoi avoir voulu faire un livre sur, sur cette personne ?
Alors, Jo Boulou était habitant du village olympique. Il a été parmi les tout premiers habitants, puisqu'il est arrivé ici au village en juillet 68, donc quelques mois après que les athlètes qui avaient participé aux Jeux d'hiver de février 68 soient partis. Et il était à ce moment-là ouvrier chez Nerpic et élu municipal. Alors, c'est un personnage, à mes yeux, hors du commun, parce qu'il avait cette triple caractéristique pas fréquente à l'époque, aujourd'hui peut-être complètement disparue, d'être ouvrier, militant et chrétien. Et les trois de façon intense, et les trois de façon constante, de son adolescence jusqu'à sa mort, il y a 2 ans maintenant. Et ce personnage, il se trouve que je l'ai un peu connu, et que j'ai toujours nourri une grande admiration à son égard, et puis ça m'intéressait de suivre des épisodes de l'histoire de Grenoble dans les pas d'une personne, je dirais, sans que ce soit du tout moqueur, péjoratif, une personne ordinaire.
Oui, c'était pas le maire ou...
Voilà, parce que on traite souvent de l'histoire de Grenoble, et moi-même ça m'est arrivé, à travers des personnages emblématiques, des personnages un peu vedettes, hein, des grands noms de la science, Louis Néel, des grands noms de l'université, des grands noms de l'industrie, Paul-Louis Merlin, des grands noms de la politique, Hubert Dubedou. Moi ça m'intéressait de suivre des épisodes de l'histoire de Grenoble en me mettant dans les pas d'un militant ouvrier. Et il se trouve, un peu par hasard, mais pas complètement quand même par hasard, que Jo Boulou a été mêlé à des moments assez décisifs de l'histoire de Grenoble. Et ça va du planning familial de la fin des années 50 au laboratoire grenoblois des années du Bedou, en passant par un conflit social majeur qui a été celui de l'entreprise Nerpic, où il a eu un rôle fondamental. Et tout cela a un peu fusionné en y ajoutant le mouvement, d'autres mouvements sociaux, comme celui autour de l'approvisionnement en eau des habitants de Grenoble, du mouvement pour promouvoir une maison de la culture. Tout cela s'est retrouvé en convergence pour donner naissance à la municipalité du Bedou en 65.
Or, quand c'était Dubedou, le slogan, les Jeux Olympiques c'est bien, mais l'eau, avoir l'eau pour tout le monde c'est mieux.
Oui, alors j'explique mon titre, le métallo de Dubedou, pourquoi ? Ben parce que quand Dubedou a fait son équipe, il s'est trouvé entouré d'ingénieurs, de chercheurs, de profs, pas un seul ouvrier. Et Boulou était le seul ouvrier.
Alors, est-ce que c'était la caution ouvrière du...
Alors, c'est une question qui mérite d'être posée. Oui, la réponse est oui, en partie, mais en partie seulement. Parce que, en fait, Jo Boulou, il faut savoir qu'il a été lui-même l'architecte de cette équipe du Bedou. Car à ce moment-là, quand des négociations se sont menées à la veille des élections municipales...
Là, on est en 1963.
On est en 1964-65, et même 65. Quelques semaines avant les élections de mars 65, il était dirigeant du Parti Socialiste Unifié, un petit parti de gauche, le PSU. Il en était le dirigeant au niveau de l'Isère. Donc c'est lui qui a conduit les négociations avec Dubedou. Et Dubedou, quand il s'est trouvé en face de ce type, il découvrait un milieu qui était presque aux antipodes du sien. Hein. Dubedou, il était l'adjoint de Néel à la direction du centre d'études nucléaires de Grenoble. Il était entouré, comme je le disais il y a un moment, d'universitaires, de scientifiques, des ouvriers qu'il ne connaissait pas. Hein. Et il a été subjugué par ce bonhomme. Hein. Et d'emblée, il s'est dit, ce gars-là, j'ai envie de faire équipe avec lui et il me le faut dans mon équipe. Alors, il y avait 37 élus municipaux et Boulou était le seul ouvrier de l'équipe. Donc voilà la justification de ce titre. Et dans ce livre, je parle de ce bonhomme, à mes yeux, hors du commun, mais je parle surtout donc de ces épisodes de l'histoire de Grenoble qui vont des années 1950 aux années 1980-90, auxquelles son histoire personnelle a été mêlée.
Et est-ce qu'au sein de l'équipe municipale, il avait un rôle déterminant ?
Oui, alors, c'est là où on va retrouver Mohamed. Il se trouve qu'il s'est particulièrement investi dans l'accueil et le logement des travailleurs immigrés. Et ça, c'est un petit peu par hasard, parce que dans l'usine où il travaillait, l'usine Nerpic, qui était une usine où il y avait beaucoup d'ouvriers qualifiés de haut niveau technique.
C'était une usine qui
fabriquait des turbines. Des turbines pour produire l'électricité d'origine hydraulique dans les barrages de la région notamment, mais pas seulement bien sûr. Et il n'y avait pas d'ouvriers maghrébins dans cette usine. Et il a découvert ce milieu, enfin il n'y en avait pas sauf Mohamed qui est arrivé, mais un petit peu après quand même. Il a été, du fait de son élection à la mairie, président de la Maison de la Promotion Sociale, qui était un organisme qui s'est spécialisé dans, comment il faudrait dire, la formation initiale des travailleurs immigrés, en très grande majorité maghrébins, issus des chantiers olympiques. Parce que quand les chantiers olympiques ont été terminés fin 67, à la veille des Jeux, il y a des milliers, de l'ordre de 4000 ouvriers des chantiers qui se sont retrouvés sur le carreau. Et il y a des politiques, Joe Boulou en était, avec certains de ses collègues, qui se sont dit il faut faire quelque chose. Et une des choses a été la mise en place de la Maison de la Promotion Sociale, que Mohamed a connue, je pense, dont il a assuré la présidence. Et là, il a découvert cette question. C'est-à-dire... que vont devenir ces travailleurs immigrés mis en chômage, qui pour la plupart n'avaient pas de conjoints ni d'enfants sur place, le regroupement familial s'est fait un peu postérieurement, qui étaient souvent très très mal logés dans des conditions absolument effroyables, dans des foyers ou dans les garnis de la rue Tricloître par exemple, hein. Et il s'est passionné pour cette question. Et c'est ce qui est aussi à l'origine de la mise en place de l'Office dauphinois des travailleurs immigrés, qui a été créé à l'initiative de la mairie en 1970 et qui est devenu une sorte d'agence paramunicipale, dont il est devenu, quelque temps après, président. Donc, son action, qui n'avait plus grand-chose à voir directement avec son expérience de syndicaliste de haut vol, a été vraiment axée là-dessus.
Et donc vous, Mohamed, vous êtes doublement lié à ça, parce que vous avez travaillé dans l'entreprise Nerpic, où vous avez connu Joe Boulou, et après vous avez travaillé donc à l'association dauphinoise de coopération franco-algérienne, qui aussi travaillait pour l'intégration des travailleurs algériens.
Alors, mon problème, ça va être parler de la DCFA, il faut des heures et des heures, mais je dirais très rapidement, je vais quand même en dire quelques mots à propos de la Maison de la Promotion Sociale. La DCFA a été créée en 1955 par des militants algériens et des militants amis français qui étaient pour la plupart des chrétiens. De 1955 à l'indépendance de l'Algérie, les objectifs de la DCFA, c'était DANA à l'époque, donc était d'aider le FLN, ramasser de l'argent pour le FLN. C'était vraiment militant. Josette Métayer était la présidente de cette association. Donc à l'indépendance de l'Algérie, l'association est devenue ADCFA, Association dauphinoise de coopération franco-algérienne. La DCFA, le CA était comme l'ancienne association, une exigence en tout cas, c'est que moitié algérien, moitié français, au niveau du conseil d'administration, mais au niveau des bénéficiaires des services faits par la DCFA, l'alphabétisation, la préformation, etc., c'était particulièrement les étrangers, particulièrement maghrébins. La DCFA rayonnait sur Grenoble et au-delà de Grenoble, une vingtaine de cours d'alphabétisation à Domaine, un peu partout, même à Dissine, pas loin de Lyon. Et je peux tout simplement dire que moi, je fais partie de ceux qui ont profité de ce service offert par la DCFA pour arriver où j'en suis actuellement, c'est-à-dire les cours d'alphabétisation, etc., etc. Je sais que le temps est très très limité ici, peut-être. Je voulais
on a un peu de temps quand même.
Parler un peu de la méthode de la promotion sociale, effectivement.
Mohamed, tu me permets d'interrompre deux secondes.
Je t'en prie, oui.
Il se trouve que par une étonnante coïncidence, un de mes premiers engagements militants a été de faire de l'alphabétisation au tout début de la DCFA. Et nous nous sommes peut-être croisés à ce moment-là.
Moi, j'ai commencé les cours d'alphabétisation en 1963. Dès mon arrivée, un ami m'a dit qu'il y a des cours d'alphabétisation. J'ai dit, je vais y aller. Donc, je suis allé effectivement dans un cours. C'était Jean-Philippe Rouboul qui était responsable à l'époque de la DCFA, etc.
Alors, et Mohamed, vous me disiez qu'il y avait à un moment donné 300 profs d'alphabétisation.
Non, à un moment donné, il y avait 600 profs d'alphabétisation, mais un peu partout, parce que la DCFA s'est développée après avoir mon embauche, etc. Ça, j'ai commencé à parler au début. Mais là, la DCFA, effectivement, est devenue vraiment... c'est sans moniteur d'alphabétisation. Il y a aussi une raison à cela. C'est-à-dire les moniteurs et les monitrices, la plupart des étudiants, ils ne viennent pas trois fois ou quatre fois par semaine, une fois par semaine, d'où le nombre de moyens d'alphabétisation. À la création de la maison de la promotion sociale, Georges Boulot apparemment donc, a joué un rôle très important, la municipalité également. L'objectif de la maison de la promotion sociale, c'est de prendre les travailleurs étrangers, c'est clair, particulièrement maghrébins, et les prendre au niveau zéro, en ce qui concerne la connaissance de la langue française, l'écriture, etc. Et au bout de 6 mois, normalement, ces travailleurs peuvent accéder au centre de formation FPA, centre de formation professionnelle. Et à l'époque, il y avait la DCFA avait un représentant à la maison de promotion, en l'occurrence moi. Et c'est vrai que je peux parler des centaines de travailleurs immigrés sont devenus professionnels après avoir effectué un stage de 6 mois à la maison de la promotion sociale, puisque l'objectif est de les amener au niveau zéro jusqu'à LFP, etc., etc. Donc, ça a été un outil formidable. Le premier président, c'est M. Bariol, qui était président de la maison de la promotion sociale.
Directeur, pardon.
Oui. Et président, surtout,
parce que le président, c'était Jo Boulot.
Jo Boulot, pardon. Non, mais je m'excuse, c'est vrai. Le directeur et Josiane Payard, qui était responsable des relations, etc. Et là, on avait la porte carrément ouverte et il est arrivé d'envoyer les gens de la DCFA, plus de 3/4 venaient de la DCFA. On avait une relation magnifique avec la maison de la promotion sociale, j'ai presque envie de dire, avec également les autres, tous ceux qui concernent le travailleur immigré maghrébin. On essaye toujours de construire une relation pour faciliter notre travail à nous et aussi motiver les autres pour faire à peu près un travail dans ce sens-là.
Merci pour ces informations. On va faire une petite pause musicale. Alors, on continue avec David Bowie. Cette fois-ci, c'est la chanson The Man Who Sold the World, qui est sortie en 1970, toujours sur l'album éponyme. Cette chanson a été pas mal connue pour avoir été reprise par le groupe Nirvana en 1993, qui a relancé la mode de cette chanson. On écoute David Bowie, The Man Who Sold the World.
Up on the stairs, we spoke of what's and when. Although I wasn't there, he said I was his friend, which gave us some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Hands. And made my way back home. I said
search for more than that. For years and years I roamed, I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Who knows? Your face, it lies with the mass on the wall.
C'était la chanson The Man Who Sold the World de David Bowie. On est toujours sur Radio Kaléidoscope. C'est l'émission Aura des Rues, l'émission qui prend de la hauteur. Nous sommes en studio avec deux invités, Mohamed Boukatem et Pierre Frappa. Alors, je voulais parler un petit peu des conditions de vie, notamment des conditions de logement des travailleurs étrangers en France et notamment à Grenoble. Et donc vous, Mohamed, quand vous êtes embauché à la DCFA en 1970, vous êtes amené à travailler sur cette question de logement des travailleurs.
Beaucoup. Et là, oui, on a, le secteur logement avait une importance capitale à la DCFA. Mais avant, disons, avant ça, c'est bien fait de parler à cette date-là, parce que j'aurais parlé un peu avant, j'aurais pleuré parce que j'ai vécu avec 30 personnes dans une pièce rue Jean-Jacques Rousseau. Chez Madame Michel. Alors, pour le logement, quand j'étais effectivement embauché à la DCFA, beaucoup de choses dans ma responsabilité. Il y avait le logement, il y avait l'alphabétisation, on avait également une autre personne. Alors, le logement. À l'époque, il y a une chose qui apparaît très rapidement, c'est que les grosses entreprises, comme Pascal, comme Jean Lefebvre, etc., etc., avaient leur logement. Mais quand j'ai des logements, ce n'est pas un logement, c'est des taudis. C'est-à-dire des baraques. Par exemple, l'entreprise Pascal avait un camp, c'est comme les toujours des Roms. C'est à peu près la même chose là, vers le Jules Vallès là-bas. Et le soir, j'allais les voir. C'est lamentable, quoi. Chauffage avec des charbons, etc., etc. Et puis on a parlé. Disons, il y avait une action qui a été menée très très durement au 49 la rue Revol.
Qui était une grève des loyers, en fait.
Oui, une grève des loyers. Il y a une dame qui possédait trois foyers, Madame Allemand. Elle avait un foyer à Fontaine, il y en avait un au 49 rue Revol, et un troisième rue Saint-Jacques, au milieu de Gaulle. Donc les travailleurs, les habitants de la rue Revol, à un moment donné, ils ont dit on a la mare, le froid l'hiver, etc. Ils se sont effectivement mis en grève, et ça a duré très 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 longtemps. Et donc ça, on a alerté la DCFA, a alerté beaucoup beaucoup de gens, et particulièrement à la mairie de Grenoble, de Bedou, Georges Boulot, etc., etc. Et finalement, la propriétaire, enfin, disons, on est allé, quand les gens n'arrivaient pas, ça commence à durer, parce qu'il faut qu'il y ait quand même qu'ils gagnent un peu l'argent pour vivre leur famille en Algérie. Faire gaffe, ça veut dire qu'on n'a pas de salaire, rien du tout, ça pose problème pour les personnes pour lesquelles on est censé aider un peu. Donc, on a pris contact avec Jackie, je ne sais pas, je crois que c'est Jackie qui s'appelle, ou quelque
Claude Jackie.
Voilà, Claude Jackie. Donc, on a dit, il y a un problème, il faut quand même intervenir. Donc, la mairie de Grenoble a mis son nez là-dedans, directement avec la propriétaire. C'est-à-dire, on a dit au propriétaire, vous êtes obligé de faire le nécessaire pour que les logements deviennent à peu près potables. Et les travaux étaient toujours en gare à ce moment-là. Et donc, elle a fait rapidement, pour aller très vite, un coup de peinture par-ci, par-là, et la mairie a envoyé quand même des gens pour voir, et ça ne correspond pas du tout avec ce que les grévistes attendaient. Et du coup, elle a refait sérieusement les travaux. Les gens ont continué à payer leur loyer. Ils mettaient son loyer de l'autre côté. Ils ne payaient pas Madame Allemand. Ils mettaient de côté. L'avocat leur a conseillé de faire. Et effectivement, le foyer de la Réauvol est devenu. Il y avait beaucoup d'associations de l'extérieur qui voulaient les maoïstes, les trotskistes, enfin plein de gens qui voulaient mettre la main sur
le mouvement.
Ces travailleurs et particulièrement sur la DCFA, parce que la DCFA est devenue vraiment quelque chose de très important pour les immigrés à la base, tu vois. Et donc, ils ont eu gain de cause. Il y avait aussi des grèves un peu partout dans les logements. Et alors là, le problème qu'on a abordé, mais on n'a pas jusqu'au bout, c'est la présence des foyers sur la Cotra.
Qui étaient les foyers de logement de travailleurs.
Travailleurs immigrés, créés en 1955. Donc, c'était vraiment réservé. Et là, c'est des foyers où... Je pourrais dire que c'est des foyers casernes, en réalité. Moi, je me rappelle très bien, dans le cadre de mon travail, j'allais voir pour dire il y a un film où il y a Katia Biassi qui va se produire, etc., etc. Le gérant, il me dit, tu vas rester à l'extérieur. Moi, je distribue les taxes. Il me dit souvent, on ne peut pas vous laisser planter parce qu'à propos, les Turcs, ils vont dire la même chose. Ah, il n'y avait pas beaucoup de Turcs à l'époque. Les Portugais, etc., etc. Donc, c'était des casernes, réellement.
Alors que c'était géré par l'État.
C'était géré par les directeurs. Non, c'est pas pour l'État.
C'est une association.
Une association sur la Cotra, très très à l'échelle de la France. De la France, hein. Mais moi, je parle plutôt plus des conditions que des gestions, parce que c'est vraiment quelque chose de terrible, quoi. Et puis petit à petit, non, c'est vrai que la mairie de Grenoble a été pour nous, malgré tout, si je dis quelques mots à propos de la mairie, ça nous a un peu, quelque part, facilité la tâche, ne serait-ce que pour l'embauche de Paul Mézard et l'embauche de moi. Donc la mairie a surtout respecté le franco-algérien. Donc il y avait Paul Mézard qui était embauché en 69, et moi j'étais embauché tout de suite en 72. Et Hubert de Bédou est venu avec Rézardo, Gilles-Main, pour inaugurer, ils nous ont attribué un foyer magnifique, enfin je veux dire des locaux énormes. Et donc, oui, la ville de Grenoble, Georges Boulot, etc., ont été pour quelque chose dans l'amélioration générale des travailleurs immigrés.
Et justement, donc, Pierre Frappage, Georges Boulot, a aidé aussi sur les conditions de logement des travailleurs.
Oui, alors j'embraye sur ce que vient de dire Mohamed. Georges Boulot raconte dans des... textes qui sont postérieurs de 20-30 ans aux événements, des choses qui se sont passées notamment dans les garnis de la rue Trécloître et au foyer Sonacotra, le fameux foyer de Fontaine, qui hébergeait plusieurs centaines de travailleurs immigrés. La DCFA a fait d'ailleurs une enquête sur les conditions de logement, enquête qui doit dater de la fin des années 60, qui révélait, entre autres choses, qu'au foyer Sonacotra de Fontaine, chaque pensionnaire bénéficiait, si on peut dire, de 4 mètres carrés par personne. Quant aux conditions de logement, Mohamed en a parlé de plusieurs garnis privés. Il y en avait également rue Trécloître. Les conditions étaient absolument abominables. Or, il se trouve que probablement en 1969, il y a eu un incendie dans des garnis de la rue Trécloître et un travailleur immigré qui était logé là, de 57 ans, est mort, asphyxié par la fumée. Et Joe Boulou a été alerté, probablement parce qu'il était à l'époque président de la MPS, la Maison de la Promotion Sociale, et donc très sensibilisé aux questions concernant les travailleurs immigrés. Et il a exigé que le préfet, le maire, Hubert de Ledoux, son autre collègue Jean Verlac, qui était adjoint à l'urbanisme, monte visiter ce Garni. Il les a emmenés sur les lieux de l'incendie et il a exigé que le rapatriement du corps de celui qui venait de mourir asphyxié par la fumée soit pris en charge financièrement par la ville de Grenoble. Et cette sensibilisation qui a été la sienne, dit-il, à partir de ce drame, l'a complètement orienté vers les questions du logement des travailleurs immigrés. Et il est probablement directement à l'origine d'une idée qui était de construire un ensemble HLM rue de l'Alma, en bordure de la rue Trécloître, pour servir à ce qu'on appelait, dans le langage des techniciens de l'époque, des opérations tiroirs. C'est-à-dire que quand on procédait à une opération de restauration, de rénovation, je dirais quelques mots peut-être de la distinction entre les deux termes, dans le quartier Trécloître, les gens, il fallait les reloger le temps des chantiers. Et donc on les relogeait soit dans le foyer qui a été construit
71,
dont parlait Mohamed il y a un moment, soit dans cet ensemble HLM de la rue de l'Alma. Seulement, il est apparu que cet immeuble HLM, bon, il était vraiment moche, d'un point de vue esthétique. D'autre part, il reproduisait des défauts qu'on pouvait retrouver dans un certain nombre de constructions et des grands ensembles des années 50-60. Et l'idée a émergé dans l'équipe municipale qu'il fallait quand même faire autre chose. Et cette autre chose, c'est justement, on garde le quartier. On essaye de maintenir la population en place, et c'est pas évident du tout, en faisant des opérations un peu homéopathiques, soit de restauration, soit de rénovation. Alors, rénovation, c'est simple, c'est on démolit et on construit du neuf. Restauration, c'est on garde ce qui peut être sauvé du bâti ancien et on restaure, on remet en état. Bon, alors, Trécloître va devenir un peu le laboratoire de ce type d'opération, et c'est le point de départ de ce qui s'est développé. Alors, dans le deuxième mandat de Dubedoux, il se trouve qu'à ce moment-là, moi-même, j'étais élu, donc j'ai suivi ce qu'on a appelé la politique des vieux quartiers, qui, à partir de l'expérience de Trécloître, s'est étendue de part et d'autre de la place Notre-Dame, hein, est passé de l'autre côté de l'Isère sur le quartier Saint-Laurent et a été étendu quelques années après dans le quartier Beria-Saint-Bruno.
Et l'abbaye aussi
plus tard. Oui. Et contrairement à ce qui... Alors, c'est légèrement postérieur à la mise en place de la Villeneuve, il faut le remarquer. Et à la Villeneuve, la ville s'était d'une certaine façon déchargée de l'opérationnel auprès de sociétés qui étaient des sociétés plus ou moins dépendantes d'organismes d'État comme la Caisse des dépôts et consignations. Donc la ville n'avait pas un pilotage direct sur ce qui était opérationnel. Alors que pour les vieux quartiers, la ville a souhaité se doter de ses propres services. Et donc un service vieux quartier a été créé au sein des services municipaux. Et ça a été très important pour qu'il y ait un contact plus direct, d'une part des techniciens avec les habitants, et d'autre part des élus avec ces mêmes habitants.
Et le quartier Trécloître était quand même un quartier particulier, parce que c'était le quartier maghrébin où tous les travailleurs se réunissaient le week-end, où il y avait tous les restaurants, les cafés... Mohamed, tu as connu
oui,
ce quartier-là.
Je voulais dire quelque chose. Tout à l'heure, j'ai failli pleurer parce que je connais celui qui est mort. C'est rue du Pont Saint-Germain, celui qui est mort dans...
Vicenti ?
Ben, la personne dont tu parlais tout à l'heure, asphyxiée, etc., etc., c'est vrai qu'il y avait des taudés un peu partout et ça s'est passé rue
du Pont Saint-Jean. Il y en a eu plusieurs.
Oui, il y en a eu beaucoup. Beaucoup même. Ça s'est passé rue du Pont Saint-Jean, mais il y en a même, actuellement, il y en a un, il est plus ou moins paralysé, il a échappé à la mort parce qu'il a eu il a pu sortir. Alors, rétrécloître, il y avait aussi, au point de vue logement, par exemple, quand l'immigration, les tout premiers, quand ils sont arrivés, il y avait les prisonniers allemands. Là, je parle des immigrés, ils sont venus bien avant moi. Donc, le foyer là-bas, donc, ça s'appelle foyer la Poudrière. Là, ils appellent ça la Poudrière, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc, on payait 4 centimes, je ne sais pas comme ça, on est logé là-bas dans des conditions, de toute façon, lamentables, etc., etc. Mais ce que tu disais tout à l'heure, c'est tellement vrai. Je crois que le premier, peut-être, petit bonheur, c'est quand même la création de l'EDTI. Et j'ai suivi pour la DCFA toutes les réunions préparatoires. Des fois, elles se faisaient à la DCFA, des fois, par-ci, par-là. Avec Jean Burger, moi, je me rappelle, c'est lui qui a quand même suivi l'affaire. Et après, il y avait des procès par-ci, entamés par les... C'est, ce qui est terrible, c'est que chez les gens, lorsque d'autres personnes comme eux engagent un procès ou une action, ils réussissent, tout le reste, tous les autres, ils disent, mais pourquoi pas nous? Il y a quand même des protestations un peu partout, et il y a eu beaucoup quand même de gains de cause de la part de ces travailleurs logés dans des conditions lamentables. Ça s'est étant la mairie de Grenoble, la mairie de Paquet, effectivement, pour que l'esprit général d'améliorer commence à faire surface et pour le bien de tout le monde.
Et Pierre Frappat, pourquoi il y avait une telle envie de la part de la mairie de Grenoble d'aider les travailleurs étrangers?
Ben, là, je crois que c'est directement lié à l'histoire personnelle, militante d'un certain nombre d'élus de l'époque. Mohamed vient de parler de Raymond Ginsburger. Raymond Ginsburger est un personnage méconnu à Grenoble et qui a joué un rôle très important dans la municipalité du Bedou. Il se trouve que c'était ce que l'on a appelé un des porteurs de valises. C'est-à-dire ces Français qui ont... je ne pense pas trahir un secret défense en disant cela. Je le dis d'ailleurs dans mon livre. Qui transportaient des documents, qui transportaient de l'argent pour faciliter les liaisons des militants FLN. Et il a été actif à Grenoble dans ce rôle. Jo Boulou et son épouse l'ont été également, mais très partiellement. Ils ont été de façon très occasionnelle aussi des porteurs de valises. Il y avait un militantisme d'un certain nombre d'individus qui étaient liés à leurs orientations personnelles. Mohamed a dit au début de son intervention tout à l'heure, il y avait parmi eux pas mal de chrétiens. Il y en a plusieurs qui ont joué un rôle dans ce domaine-là. Quelqu'un comme Jean Verlac, qui était le véritable premier adjoint, qui était le bras droit de Dubedou pendant les 18 ans à la mairie, était aussi un militant très engagé. Il faut savoir qu'il est venu à Grenoble après avoir été grièvement blessé par la police dans la fameuse manifestation du métro Charonne en février 1962. Donc c'était quelqu'un, lui aussi, de très engagé dans la lutte pour la paix en Algérie. Je dirais quelqu'un, moi-même, je suis venu à la politique par ma militance quand j'étais militant syndicaliste étudiant dans la lutte pour la paix en Algérie. Donc on a été nombreux à venir à la politique et à certaines militances par ce biais-là.
D'accord. Eh bien, merci pour tout ça. Malheureusement, on arrive au terme de cette émission. Cette émission sera rediffusée vendredi de 19h à 20h et sera retrouvée en podcast sur le site du Crieur www.lecrieur.net. Mohamed Boukatan, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Pierre Frappat, merci aussi. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Aura des Rues. Au revoir tout le monde.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
C'était Aura des Rues, l'émission qui, espérons-le, vous a fait prendre de la hauteur sur Radio Kaléidoscope 97 FM. À la prochaine.